Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro pour ce bulletin d'information. On en sait un peu plus sur le virus qui sévit depuis quelques jours dans la région forestière de Guinée. Les autorités sanitaires affirment avoir maintenant détecté la présence du virus Ebola, une épidémie de fièvre hémorragique qui a déjà fait au moins 34 morts. Rémi Lama est le ministre guinéen de la Santé.
C'est le laboratoire de Lyon qui a confirmé le virus de type Ebola, la fièvre de type hémorragique due à Ebola. Dans tous les centres de santé, on est en train de sensibiliser les gens pour leur dire que tout cas de fièvre hémorragique entraînant une diarrhée, d'informer aussitôt les services de santé pour que les décisions soient prises. Et également, le personnel de santé, ils sont sensibilisés par rapport aux dispositions, comme on appelle ça, par rapport à la prévention. Et maintenant, moi-même, je m'y rends avec des kits de protection. Et tous les partenaires se sont mobilisés. Dès demain, cette équipe va être convoyée vers la région forestière pour essayer de protéger non seulement les personnels de santé et éventuellement toutes les localités dans lesquelles ces cas ont été révélés.
Voilà, c'était Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé. Après Laurent Gbagbo, c'est au tour de Charles Blé Goudé d'être transféré à La Haye. Les autorités ivoiriennes ont remis ce samedi l'ancien leader des jeunes patriotes à la Cour pénale internationale. Il y fait face à des accusations de crimes contre l'humanité, des crimes commis après l'élection présidentielle contestée de 2010. À Abidjan, ses partisans dénoncent une justice des vainqueurs, mais certains espèrent qu'il bénéficiera de meilleures conditions de traitement que celle qu'il a connue à Abidjan. On écoute Daniel Nemlin, l'un des partisans de Charles Blé Goudé.
On comprendrait mieux que ça, parce que pour Mme Gbagbo, on nous avait laissé entendre que les conditions étaient réunies pour qu'on puisse la juger ici. Donc, naturellement, tous ceux qui suivent, on doit pouvoir la juger ici. Bon, là, on se rend compte que c'est toujours la justice des vainqueurs. Il y a un groupe qu'on met en prison, il y a un deuxième groupe qui est plus à l'aise, qui fait ce qu'il veut. Ici, déjà, nous, on était inquiets parce qu'on se disait qu'à tout moment, on pouvait nous annoncer son décès. Puisque tantôt, on nous disait qu'il a DST, tantôt, on nous disait qu'on ne sait pas où il est, dans une résidence protégée. Bon. Mais les dernières images nous ont montré le contraire, qu'il était vraiment maigri, il était dans une situation difficile. Donc, je préfère un début de la haie bien en forme avec toutes ses facultés intellectuelles, tout, que de laisser mourir à petit feu dans une prison, dans un sous-sol quelque part.
Voilà, c'était Daniel Nemlin, l'un des partisans de Charles Blé Goudé, joint à Abidjan. Un responsable du gouvernement somalien rapporte que les militants d'Al-Shabaab ont été chassés de la ville de Koriolé. Cette ville, située à environ 100 km au sud de Mogadiscio, serait désormais sous contrôle. Le vice-gouverneur de la région du Chabel, Hadji Adifi Adoulé, précise que les troupes somaliennes et celles de l'Union africaine ont rencontré une forte résistance des combats avec des combattants islamistes ce samedi. Au cours des dernières semaines, les troupes somaliennes et celles de l'AMISOM, la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, mènent des offensives pour chasser les militants d'Al-Shabaab de leur bastion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les autorités pakistanaises affirment que deux bus de passagers et un camion citerne sont entrés en collision ce samedi, tuant au moins 35 personnes et en blessant d'autres passagers. Les autorités disent que l'un des bus a cogné le fond du camion citerne, tandis que l'autre qui était derrière le pétrolier l'a également cogné, provoquant un gigantesque incendie. L'accident a eu lieu sur une route dans le district de Hab de la province du Baloutchistan. Les troupes russes ont bloqué Belbek, la base aérienne de Crimée, près de Sébastopol, cette ville portière de la mer Noire, et ils ont appelé les forces ukrainiennes à se rendre.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Washington, la voix de l'Amérique, Camille Groditi avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, des progrès significatifs dans la détection de la tuberculose multirésistante.
On a aujourd'hui 92 laboratoires qui sont maintenant parfaitement équipés pour faire ce qu'il faut faire pour le diagnostic de la tuberculose et surtout de la multirésistance.
On suivra les explications du docteur Mario Raviglione, directeur du département halte à la tuberculose de l'OMS. Journée internationale des forêts, les représentants des peuples des forêts réclament le respect de leurs droits.
Nous parlons d'environ 500 millions de personnes qui dépendent directement de la forêt et y vivent, dont 200 millions sont autochtones.
Sophie Chao de l'ONG Forest People Programme nous en dira davantage et des scientifiques internationaux parlent de cloner un mammouth, cousin de l'éléphant moderne. On se tourne d'abord vers l'espace car des scientifiques américains affirment avoir détecté le chaînon manquant de l'univers, à savoir des fluctuations de l'espace-temps remontant aux premières lumières émises après le Big Bang, l'explosion colossale intervenue il y a 14 milliards d'années. Ces observations des premières lumières émises par l'univers ont été permises par le radiotélescope du pôle sud BICEP 2. C'est une preuve irréfutable de la théorie de l'inflation de l'univers, a expliqué l'astrophysicien Mark Kamionkowski de l'Université Johns Hopkins dans le Maryland. En d'autres termes, il serait donc prouvé que l'univers ne cesse de s'étendre depuis sa naissance lors du Big Bang. L'existence de ces ondulations de l'espace-temps, premier écho du Big Bang, avait été énoncée par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité en 1905, mais elle n'avait jamais été détectée jusqu'à présent. Washington, la Voix d'Amérique, Camille Groditi avec vous. Pour Carrefour Sciences et Santé, le 21 mars, c'est la Journée internationale des forêts. Et à cette occasion, les représentants des peuples des forêts, les peuples autochtones et communautés locales de tous les continents se sont retrouvés à Palangka Raya en Indonésie pour faire le point des menaces pesant sur leur environnement et donc leur mode de vie. En Afrique, tout comme en Amérique latine et en Asie, l'accaparement des terres menace la survie de ces populations, chiffrées à quelque 500 millions d'êtres humains. Dans leur déclaration de Palangka Raya sur la déforestation et les droits des peuples des forêts, les participants ont appelé à l'adoption de nombreuses mesures. Sophie Chao de l'ONG Forest People Programme en évoque certaines.
L'exploitation industrielle est souvent illégale dans les forêts tropicales du monde, sont menées par des entreprises d'exploitation forestière. Une autre source principale de déforestation est le forage pétrolier, ainsi que l'exploitation minière à grande échelle, le développement des infrastructures, telles que les autoroutes et les barrages, et l'agriculture sous forme de plantations, en particulier l'expansion du palmier à huile. Et les menaces auxquelles font face les forêts des peuples autochtones sont en somme comparables à travers le monde. En République démocratique du Congo, on a trouvé que l'État concède de vastes étendues de forêts, principalement à des compagnies minières et forestières, souvent d'origine étrangère, telles que des compagnies chinoises. Et au Cameroun et au Libéria, l'exploitation forestière, ainsi qu'aussi la culture du palmier à huile et autres projets d'infrastructures qui accélèrent la déforestation.
Quels sont les efforts mondiaux pour empêcher la déforestation et est-ce qu'ils sont vraiment efficaces?
Les efforts mondiaux pour prévenir la déforestation incluent la RED, le programme collaboratif des Nations Unies sur la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation de la forêt, ainsi que les principes fondamentaux du partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale, ou la FCPS. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas suffisamment respectés en pratique, et ces standards internationaux, qui sont a priori encourageants, sont compromis par un manque de réformes nationales, légales et de gouvernance pour le respect des droits des peuples des forêts.
Quelles sont les principales mesures juridiques contraignantes que les gouvernements devraient mettre en place pour protéger les droits des populations?
Premièrement, les gouvernements devraient cesser de délivrer toute forme de titres, de permis et de concessions industrielles qui se superposent aux terres de ces peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et informé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des mesures juridiques contraignantes pour que toute planification de gestion des territoires et des forêts, ainsi que de leur zonage, prenne pleinement en compte les droits et les systèmes d'utilisation des terres, des peuples des forêts, ainsi que les besoins de leurs générations futures.
En ce qui concerne le secteur privé, quelles sont les suggestions?
Les suggestions provenant de notre atelier, organisé avec les membres de 8 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, sont qu'il est impératif que les entreprises fournissent des recours aux communautés autochtones pour les violations passées et qu'elles résolvent les conflits fonciers dans le plein respect de leurs droits. Il faut aussi que les entreprises établissent des mécanismes crédibles pour vérifier que les normes de certification et leur nouvelle politique de zéro déforestation et de zéro exploitation soient respectées et que les communautés puissent porter plainte et réformer ce système dans les cas où il n'y aurait pas conformité. Je pense qu'il est important de noter que le phénomène de la déforestation est autant environnemental que politique, social, économique et historique et que toutes ces facettes doivent être prises en compte et qu'il faut aussi aller au-delà d'une définition scientifique de ce qu'est une forêt, étant donné les nombreux peuples qui en font intégralement partie. Nous parlons d'environ 500 millions de personnes qui dépendent directement de la forêt et y vivent, dont 200 millions sont autochtones.
Sophie Chao, de l'ONG Forest People's Programme, elle était jointe en Indonésie. Washington, la voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars, l'Organisation mondiale de la santé se félicite des progrès sur le front de la tuberculose multirésistante aux antituberculeux de première ligne. En effet, une nouvelle méthode de diagnostic a permis de progresser nettement dans 27 pays. Notamment, le nombre de cas recensés a doublé en un an, explique le docteur Mario Raviglione, directeur du département Halte à la tuberculose de l'OMS. On l'écoute.
On a les résultats d'un projet qui a commencé en 2008-2009, dans cette période-là, avec 87 millions de dollars mis à disposition par United, qui nous a permis de mettre en place dans 27 pays prioritaires un réseau de laboratoires qui utilisent de la technologie moderne pour faire le diagnostic de la tuberculose et surtout de la tuberculose multirésistante. À travers ce projet, qui avait comme but de recréer en fait des laboratoires nouveaux dans ces 27 pays, on a aujourd'hui 92 laboratoires qui sont maintenant parfaitement équipés pour faire ce qu'il faut faire pour le diagnostic de la tuberculose et surtout de la multirésistance. Et ce qu'on a noté, c'est que dans ces pays-là, on a eu une augmentation importante des cas de tuberculose multirésistants comparée à ce qui s'est passé avant.
Parmi les pays où donc ont été mis en place ces nouveaux laboratoires, quels sont les pays africains?
Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Lesotho, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Ouganda.
Et ça va être une avancée fantastique pour ces pays parce que jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens de détecter les cas de tuberculose multirésistante.
C'est exactement ça. Parce que vous voyez, dans beaucoup de ces pays, ce qu'il y avait là, il y avait des laboratoires à niveau de préfecture et dans les hôpitaux de préfecture. Et c'était des laboratoires surtout qui faisaient l'examen du crachat avec la microscopie, avec le microscope. Et avec un examen comme ça, normalement, on n'a pas la possibilité de détecter les cas qu'on appelle crachat négatif. Ce sont des cas de tuberculose qui ont le crachat négatif. Pour les identifier, alors normalement, on faisait la culture. Mais la culture va prendre normalement au moins 6, 7, 8 semaines. Alors là, on a un malade qui se présente avec la toux, par exemple, et on a la suspicion de la tuberculose. On fait, par exemple, la radiographie, on voit qu'il y a des lésions pulmonaires qui peuvent être tuberculose, mais il faut les confirmer avec la bactériologie, il faut trouver le bacille. Alors, pour trouver le bacille, si on a le crachat négatif à l'examen direct microscopique, il faut faire la culture. Et la culture traditionnelle prend, comme je l'ai dit, entre 4, 6, 8 semaines pour être positive. C'est-à-dire qu'ici, on attend comme ça un mois ou deux, le malade peut être mort. Alors maintenant, avec ce type de test qu'on appelle expert et qui est un test très moderne, on pourrait dire, on peut faire le diagnostic dans une période de temps qui est moins que 2 heures et on peut identifier la tuberculose dans les cas qui sont crachats négatifs, c'est-à-dire qui n'ont pas à la microscopie la présence des bacilles. Et en même temps, on peut identifier la présence de la résistance à la rifampicine qui est utilisée comme un indicateur de la présence de multirésistance. On a mis en place cette technologie dans ces pays-là et bien sûr, alors là, automatiquement, ce qu'on a noté, c'est que le nombre des cas multirésistants entre les cas de tuberculose qu'on avait diagnostiqué normalement, alors les cas multirésistants sont augmentés, évidemment.
Le docteur Mario Raviglione, directeur du département halte à la tuberculose de l'OMS, il était joint à Genève. Vous suivez Carrefour Sciences et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. L'Assemblée nationale du Sénégal vient de voter une nouvelle loi anti-tabac. Elle interdit de fumer dans les espaces publics, interdit la vente de tabac à proximité des établissements scolaires et interdit également toute publicité autour des produits du tabac. La législation devra encore être promulguée par le président Macky Sall. Pour les ONG anti-tabac, il s'agit d'une grande avancée pour le Sénégal. Jacques Aristide a recueilli la réaction du docteur Abdulaziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac.
Le Sénégal est un pays indépendant. Et à ce titre, le Sénégal ne doit pas se laisser dicter sa politique anti-tabac, sa politique sanitaire par l'industrie du tabac. Et ceci est extrêmement important. C'est en conformité parfaite avec l'article 5.3 de la Convention cadre que le Sénégal a signé. Le deuxième point, vous savez parfaitement que la taxation est la mesure la plus efficace pour lutter contre le tabagisme. Et donc, à ce titre, une taxation forte qui suit le coût de la vie permettrait de diminuer le nombre de fumeurs, c'est-à-dire la cigarette risque de ne plus être accessible aux jeunes et aux pauvres. Donc, ça diminuerait le nombre de fumeurs. Deuxièmement, cela augmenterait clairement les recettes fiscales de l'État. Et donc, cela permettrait d'avoir des ressources additionnelles qui permettraient le financement, par exemple, de la santé ou d'autres priorités au niveau national. Ce deuxième point est très important. Il ne faut pas se laisser distraire par les fausses déclarations de l'industrie du tabac qui fait croire que d'augmenter la taxation augmente la contrebande. C'est faux. Les pays qui ont le plus augmenté la taxation, tels que l'Australie, n'ont pas du tout de contrebande. C'est l'industrie du tabac qui organise la contrebande et ce n'est pas autre chose. Le troisième point qui me paraît extrêmement important. Vous savez très bien que l'industrie du tabac dépense des sommes incroyables pour tromper les jeunes et les amener au tabagisme à travers une publicité, à travers du sponsoring, à travers des parrainages, à travers de la promotion. Désormais, il ne sera plus possible, sous quelque forme que ce soit au Sénégal, de faire de la publicité, de la promotion ou du parrainage direct ou indirect.
Le Sénégal s'est doté depuis 1981 de plusieurs lois, mais qui n'ont pas eu un impact significatif d'après une récente étude. Êtes-vous confiant que la nouvelle loi va apporter les résultats escomptés?
Je n'ai pas une boule de cristal. La seule chose que je sais, ce qui existait avant n'existe plus. Avant, il y avait une loi et il n'y avait pas une société civile assez forte. Aujourd'hui, il y a une société civile à travers la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Il y a plus de 22 associations qui sont réunies dans cette ligue. Cette société civile n'existait pas en 1981 quand, au bout de 4 ans, les ingérences de l'industrie du tabac ont réussi à faire modifier les dispositions réglementaires. Ce ne sera plus possible.
On sait que l'Afrique est désormais un marché important pour les compagnies de tabac qui perdent du terrain ailleurs dans le monde. Est-il vraiment possible de mener campagne contre elles?
Écoutez, nous nous y attelons parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal, mais les autres pays vont s'inspirer de ce que le Sénégal a fait. Mon seul souci, c'est qu'il ne faudrait pas que les autres pays fassent moins que le Sénégal. Il faut qu'ils essaient de faire mieux que le Sénégal.
Et donc, quelque part, vous êtes confiant qu'on peut mener campagne contre ces compagnies de tabac, ces multinationales?
Écoutez, nous, la bagarre, nous sommes des Sénégalais. Nous travaillons au Sénégal et nous mènerons la campagne ici au Sénégal pour que notre loi soit promulguée, pour que notre loi soit appliquée, sans état d'âme.
La loi sénégalaise doit-elle inspirer d'autres pays africains?
Ma conviction, c'est que je reçois tellement de coups de fil, je reçois tellement de mails venant d'autres acteurs de la société civile des pays africains. Je leur souhaite d'avoir la même force et de trouver une coalition. Parce que c'est la première fois au Sénégal qu'il y avait une telle coalition.
Le docteur Abdoulaziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, il était joint par Jacques Aristide à Dakar. Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous suivez le programme Carrefour Sciences et Santé. Camille Grosdidier avec vous. La fièvre de Lassa serait circonscrite en Guinée où elle a fait au moins 8 morts, selon le docteur Mamadi Koulibaly. Le directeur du Centre international des infections tropicales situé à Nzérékoré, chef-lieu de l'épicentre de la maladie, est formel. Ses services ont pu contenir la maladie qui a été signalée, entre autres, dans la ville de Gwekédou et ses environs. Les symptômes de la fièvre de Lassa se manifestent par une forte fièvre, des vomissements et des saignements au niveau du nez ou encore de l'anus. La maladie est endémique en Afrique de l'Ouest et se localise principalement dans les zones forestières en Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, selon le docteur Mamadi Koulibaly. On écoute le médecin.
Sur la base des données antérieures que mon centre a réunies déjà près d'une dizaine d'années, tout laisse à croire que c'est une fièvre hémorragique. Le premier symptôme, c'est la fièvre, puisque nous sommes en zone endémique du palu. Dès qu'un patient se présente à l'hôpital avec des signes fébriles, on pense prioritairement au palu. Mais il faut être sélectif dans la pose du diagnostic. Dans ce cas, on vérifie si la fièvre qui se manifeste au niveau de ce patient n'est pas associée à un traumatisme quelconque. Si cette fièvre persiste malgré l'administration d'antipaludéens courants connus, si au courant de cette fièvre, on remarque un jaunissement de la rétine ou bien des gouttelettes de sang sur la rétine, ou si on remarque une diarrhée légère ou bien des gingivorragies ou bien, à la rigueur, l'épistaxis. Puisque des études antérieures ont prouvé que la fièvre de Lassa est endémique en Guinée, dès que cela se remarque, alors le médecin en charge du patient pense tout de suite à la fièvre de Lassa.
Si l'on s'en tient aux antécédents, cela fait penser à la fièvre Ebola. S'agit-il de cela?
Non. En parlant d'antécédents, il y a déjà près de 10 ans que mon centre, le Centre international de recherche sur les infections tropicales en Guinée, mène des investigations, des études sentinelles avec les CDC d'Atlanta, les centres de contrôle et de prévention des maladies. Et il a été établi que ce n'est pas la fièvre Ebola, mais qu'il y a une autre fièvre dite fièvre de Lassa qui est endémique et qui est commune à tous les pays d'ici, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria. Alors, quand il y a fièvre hémorragique, nous pensons prioritairement à la possibilité de cette fièvre dite Lassa.
Alors, la fièvre de Lassa, dans quelle proportion agit-elle actuellement sur le sol guinéen? Quel est son point d'ancrage?
Maintenant, je ne pourrais pas vous donner l'envergure de la flambée à quelle... Mais depuis déjà 2 ou 3 jours, nous n'enregistrons pas de nouveaux cas et nous pensons que la chaîne est rompue. Nous sommes à l'hôpital régional de Nzérékoré. Notre siège est là, notre laboratoire est là. Et nous pensons que la chaîne est rompue. Mais à la lumière des données antérieures, il faut dire que la fièvre de Lassa a un degré de diffusion de 22% de tous les cas fébriles que l'on peut recenser sur le territoire national guinéen.
Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que la maladie s'étende puisque nous sommes dans une zone forestière?
Cette crainte est là, c'est ce qui nous a prédisposé à envisager des mesures urgentes de sensibilisation au niveau communautaire. Et les services de santé de l'hôpital régional et même des postes de santé dans les villages les plus reculés sont constamment, tout au long de la journée, informés pour qu'à leur tour, ils informent les communautés villageoises sur la manière de se comporter pour éviter ou pour limiter tout au moins la contamination. Ce procédé porte parce que à l'hôpital, les cas qui venaient il y a 3 ou 4 jours sont presque absents maintenant.
Donc vous confirmez que la fièvre a été contenue?
Oui, à la lumière des informations de ce matin, oui.
Il y a des pays autour de vous, autour de la Guinée, vous avez cité la Côte d'Ivoire et d'autres pays tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait des craintes d'expansion dans ces pays?
Non, pas outre mesure. Parce que le porteur naturel du virus qui provoque cette fièvre-là, ce rongeur est commun à tous ces pays. Il y vit naturellement et ordinairement. On a besoin seulement d'un hasard, soit parce que les enfants s'offrent à une chasse contre ce rongeur-là aux fins de consommation, soit, puisque c'est des rongeurs péridomestiques, ils peuvent souiller de leur urine ou de leurs fesses certains éléments que nous consommons ou que nous touchons. À ce moment, le chaînon est établi et la maladie se manifeste. Sinon, cette fièvre est endémique dans ces zones-là. Il n'y a que par moment qu'elle peut faire irruption, tant que l'opportunité est là pour le virus de se manifester au niveau du genre humain.
Cette fièvre est différente de la fièvre jaune?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est provoquée par un virus qu'on a connu seulement en 1969 au Nigeria. Et ça, c'est complètement différent des fièvres hémorragiques, mais ce n'est pas les mêmes choses.
Le docteur Mamadi Coulibaly, joint à Nzéré Corée par Jean-Roger Bion. Washington, la Voix d'Amérique, et pour finir cette édition de Carrefour Sciences et Santé, eh bien, ce n'est pas encore Jurassic Park, mais voilà, on s'en rapproche. Voici qu'un groupe de scientifiques internationaux parle de cloner un mammouth, cousin de l'éléphant moderne. Jacques Aristide raconte.
Il y a 43 000 ans, sur une île isolée dans l'océan Arctique, un mammouth âgé d'environ 60 ans est tombé dans un étang gelé, la glace ayant cédé. Cette femelle a lutté pendant un jour et demi pour se dégager, mais la glace s'étant étendue pendant la nuit, elle a péri, frigorifiée pour l'éternité. Des carnivores ont dévoré les parties exposées de son corps, mais le reste est resté conservé dans la glace. En mai dernier, un garçon d'une tribu nomade russe est tombé sur les restes du mammouth. Les scientifiques les ont rapidement dégagés et transférés à un laboratoire à Yakoutsk. Ils ont été stupéfaits de constater que la carcasse contenait un tissu organique exceptionnellement bien préservé. Le chef de l'expédition, Semyon Grigoriev, de l'Université fédérale du Nord-Est, évoque même un sang bien conservé. « C'est le cas le plus étonnant de toute ma vie », a confié Grigoriev à l'AFP. Comment est-il possible qu'il ait survécu sous forme liquide et le tissu musculaire est également rouge, la couleur de la viande fraîche, poursuit le scientifique russe. Une autopsie détaillée a été menée pendant plusieurs mois par un groupe international de scientifiques, dont des Américains. Ces experts sont parvenus à une conclusion étonnante, comme l'a annoncé le vice-président de l'association russe des anthropologues médicaux, Radik Khairoulin. Les données que nous allons recueillir vont nous offrir une excellente opportunité de cloner le mammouth, a-t-il dit. Ce ne serait pas la première tentative visant à cloner un animal disparu, mais le défi est de taille. Un animal disparu a déjà été ressuscité par clonage pour la première fois en 2003, même si le clone est mort 10 minutes après sa naissance. Les scientifiques ont utilisé des peaux congelées pour cloner un bucardo ou bouquetin des Pyrénées, une sous-espèce du bouquetin d'Espagne qui s'est éteinte en 2000. Les experts débattent encore des avantages et désavantages du cloning à des espèces disparues, mais les progrès réalisés dans les domaines des cellules souches et de la reconstruction de l'ADN ancien permettent d'espérer. Au plan éthique, néanmoins, les experts restent partagés. Pour le vice-président de l'association russe des anthropologues médicaux, Radik Khairoulin, c'est une chose de cloner à des fins scientifiques et une autre de le faire par curiosité. Néanmoins, si l'on parvient à cloner un mammouth, il ne sera pas tout à fait comme ses ancêtres, puisque sa mère porteuse sera par la force des choses un éléphant moderne. Reste à voir si l'on pourra retirer un ovule des restes du mammouth.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique au micro Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivie.